par ici la musique.
Cause if it's for real, make your appearance. Do not again disappear. Do not again disappear. So long, so long, so long, so long, so long. So long, so long, so long, so long, so long. Cause if it's for real.
Bienvenue, c'est Par ici la musique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yann Altermat pour parler, entre autres, de reggae, puisqu'il a fait partie des Moonrisers. On parle de jazz, bien sûr, avec son groupe Wembley. Et puis, et avant tout, on parle de saxophone, le saxophone étant son instrument de prédilection. Par ici la musique, aujourd'hui avec Yann Altermat.
Like the being of the weather. Sometimes mad and then better, better. Dreams must become reality. They shall be the continuity. Crystal clear the water must be. If you wish for unite, unite, yeah. Cause if it's for real, make your appearance. Again disappear, could not again disappear. Don't disappear.
Ambiance un petit peu buffet de gare aujourd'hui, puisque on est au buffet de la gare à Porrentruy pour rencontrer Yann Altermat avec beaucoup de projets musicaux. On va parler de quelques-uns de ces projets. Il y a pas mal de projets reggae. Les Moonrisers, mais il y en a d'autres. Le reggae, c'est une musique qui t'a marqué à tel point que tu as envie de t'exprimer là-dedans aussi.
Oui, absolument. En fait, pas au départ. Hein. Au départ, on m'a demandé de venir jouer dans les Moon. C'était en 94. Et puis, je trouvais plutôt ringard de faire du reggae qu'autre chose. J'aimais bien moi Santana, Woodstock, Sly and the Family Stones et tout ça. Puis quand on m'a demandé de faire du reggae, ben, j'étais là, alors on y va. Ben, je trouvais ça... Il y avait plein de concerts à la clé, donc je me suis lancé. Mm-hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait prendre au jeu, en fait. C'est que, au fil des mois, j'ai commencé à devenir de plus en plus fan de reggae.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette musique? Pourquoi tu t'es laissé tenter, finalement?
C'est le côté trance, répétitif. C'est le côté aussi, on va pas dire gospel, mais ça vient de la soul music américaine. Donc c'est hyper spirituel, ça peut être très spirituel et... Et émotionnel en fait, avec des jolis chœurs et aussi le rythme quoi, que j'adore en fait. Puis la basse très, avec beaucoup de sub, avec beaucoup des sons très gras comme ça. Mm-hmm. J'en fais plus hein, donc c'est quelque chose qui me manque en ce moment.
Ah oui, ouais.
Mais j'ai fait 10 ans de reggae, j'ai aussi fait partie de Mad Lighters, j'ai collaboré justement sur le disque de Lee Scratch Perry avec des Whiteberry Rats. Et actuellement, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire un jour. Ça va revenir parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore.
Eh, hey, par ici la musique.
Premier pas dans la musique, tu le fais à la fanfare de Lignières et la fanfare d'Auvergne.
D'abord la fanfare d'Auvergne, j'ai commencé à 11 ans, j'ai suivi mon papa qui faisait de la basse 6B. D'abord j'ai dit non, il m'a dit viens faire la fanfare, je dis ouais non je reste à la maison. Finalement un matin je suis allé vers lui, je lui ai dit je commence. Alors, il m'a pris une ardoise, il m'a marqué la gamme de Do avec les pistons qu'il fallait presser pour obtenir les notes.
Ton papa a été ton premier professeur de musique.
Oui, pour ça, oui. Il avait fait très clairement 5 lignes avec les notes. Et puis, ça m'a directement motivé. J'étais dans ma chambre, j'ai essayé de faire les notes. Puis après, j'ai pris des cours avec un prof, quoi.
Ça t'a motivé, tu le dis. À partir du moment où t'as entendu la musique, où t'as entendu que tu pouvais émettre un son, il s'est passé quelque chose.
Complètement. Je me souviens de ma première leçon pour de vrai, avec un prof qui était un des membres de la fanfare. Le musicien m'a dit, c'était Gérald Nicou, il m'a dit, tiens une note. J'ai senti la vibration dans la... comme ça. Puis ça m'a marqué, ouais. La salle, en plus, elle résonnait. En fait, je suis né musicien, quelque part. J'avais vraiment un truc... Ça demandait qu'à venir, en fait.
Le premier instrument que tu as touché, c'était donc un cuivre.
Exactement. Là, avant, on allait dans la chambre d'un copain, puis on faisait un peu du n'importe quoi avec un accordéon, on tapait. J'adorais le rythme, donc dans des salles d'attente, je faisais des trucs comme ça. Même à 9 ans, je faisais ça. Mais j'ai commencé vraiment à 11 ans, à la fanfare d'Auvergne. Voilà.
Tu écoutais déjà beaucoup de musique, tu étais sensible à la musique, au disque.
Oui, complètement. Bah, j'avais un ami d'enfance qui avait 3 ans de plus que moi, qui avait lui-même un frère qui avait 8 ans de plus. Donc en fait, on récoltait les Thrillers de Michael Jackson, tous les albums de Soul. En fait, j'étais à la bonne porte. Ce qui faisait qu'à 9 ans, j'écoutais déjà Miles Davis ou des choses comme ça. Quoi,
parce que, ouais. Donc déjà le jazz, déjà le cuivre, la sonorité de Miles Davis à 8-9 ans, c'est quand même particulier.
Ouais, mais c'est simplement aussi parce que c'est là qu'on voit que c'est un peu... prédestiné, c'est-à-dire qu'il y avait les fameuses émissions sur la TSI du Montreux Jazz Festival qui étaient diffusées assez tard, mais des fois j'allais pas au lit très tôt. Et je regardais déjà Dizzy Gillespie en concert à Montreux à 10 ans, 9 ans, mais je dis pas que j'appréciais, je trouvais ça m'attirait, mais je comprenais pas tout. Hein. J'étais là, c'est quoi ce truc? Mais ça m'attirait, mais en même temps. Je trouvais ça étrange en fait, je comprenais pas tout ce qui se passait.
Mais le Montreux Jazz te l'a bien rendu puisque tu as reçu un prix en 2003.
Voilà, exactement. Avec des amis, des camarades d'école, de l'école de jazz à Lausanne. On a simplement envoyé une cassette avec une démo pour notre candidature, puis on a été pris. Alors on a fait d'abord des éliminatoires à Zurich, après des éliminatoires je sais plus où. Et finalement, on a fini au Chrysler Jazz, qui est un concours avec des groupes de jazz, et on a gagné le premier prix.
Génial.
Ouais, c'était une super expérience. Monsieur Claude Nobs est venu nous serrer la pince. Et...
Le saxophone est quand même devenu, à l'âge de 19 ans, un instrument qui te fait encore découvrir d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment ton instrument de prédilection.
Ah oui, absolument. Parce que j'avais quelques soucis, en fait. Mon instrument vibrait bien. J'avais vraiment une assez bonne sonorité à la trompette. Mais j'avais toujours des soucis d'accès au suraigu, quoi, et tout ça. Puis c'était toujours la hantise, parce que je musais trop les lèvres. Et du coup, au concert, des fois, les notes sortaient pas, quoi. Donc je me suis dit, maintenant, on va se refaire une reconversion. Et j'ai commencé le saxophone alto au conservatoire à Neuchâtel. Et ça a été justement une révélation, parce que j'ai plus du tout eu ce genre de problème, en fait. Je suis beaucoup plus libre, accès à tout le registre. Puis c'est un instrument en plus que j'adore, quoi, le saxophone, quoi. Mais j'aime toujours la trompette, hein, les choses comme ça, j'aime toujours.
Thank you.
globalement, c'est l'instrument. Je pense que c'est aussi le grand public qui décide. Alors, j'ai rencontré quelques personnes qui détestent le saxophone, ça existe. Mais globalement, c'est un instrument qui va direct. C'est comme le violoncelle, ça va directement dans le cœur des gens. La trompette, des fois, ils comprennent. Moi, ça me pose pas de problème, mais pour le grand public, des fois, ça, c'est un peu plus abstrait. Le trombone aussi, hein, qui est un instrument que j'adore, mais ça va moins marquer les esprits que le saxophone. Quoi. Après les concerts, on vient toujours me dire, toi, j'aurais, les filles, elles disent souvent, j'aurais voulu commencer le saxophone, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé. Il y a une espèce de une récurrence avec ça. Quoi. Les, c'est un instrument que les filles aiment beaucoup, c'est marrant.
À 19 ans, c'est le saxophone qui commence. Pour toi, comment ça a évolué? Comment tu peux évoquer ton parcours avec cet instrument?
J'ai eu de la chance de tomber sur un super prof, Jean-François Lehmann. J'ai commencé à 19 ans avec lui et il m'a fait travailler de manière du saxophone classique, qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais il n'y avait pas de prof dans la région pour m'enseigner des saxophones jazz. Et je me suis dit, je fais avec Jean-François, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Par contre, il m'a appris une rigueur, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Quoi. Encore maintenant, quand j'enseigne à mes élèves, j'utilise les mêmes cahiers parce que je trouve qu'il avait une bonne méthodologie pédagogique. Et après, ensuite, j'ai commencé, parce qu'effectivement, j'avais envie de me libérer de ça, j'ai commencé l'école de jazz. Et là, il y a un petit moment schizophrénique parce que je faisais 2 embouchures différentes pour le jazz et pour le classique. Puis après, je me suis dit que c'était pas très sain et agréable. Alors j'ai abandonné le saxophone classique et je me suis mis vraiment à fond dans le saxophone jazz.
Qu'est-ce que ça veut dire le saxophone classique ?
Évidemment que le répertoire classique, il est pas énorme vu que l'instrument est très récent. Hein. Il y a très peu de littérature. On en trouve dans le Boléro de Ravel, dans Darius Milhaud, mais il n'y a pas beaucoup de littérature. Si on parle d'un point de vue de l'instrument, en fait, on met les lèvres inférieures retroussées, ce qui fait que ça coupe les harmoniques. On a un son beaucoup plus pur qui leur parle de parasites. C'est une autre approche, en fait. C'est une approche différente. Quoi. Dans le saxophone jazz, on peut avoir du souffle, on peut avoir un son un peu nasillard, on peut se permettre d'être nous-mêmes. Tandis que dans le saxophone classique, on doit se conformer à une école nationale, si on veut. Comme il y a pour la clarinette, l'école allemande ou l'école française. Donc c'est plutôt au niveau national qu'individuel. Mais c'est très intéressant. J'ai des amis professionnels dans le classique. Ils font des pièces, ils font des doubles sons, ils ont une manière de traiter le son. Donc c'est passionnant. On peut aussi apprendre d'eux, beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de saxophones jazz qui viennent maintenant du classique. Thank you.
Faut-il être fou pour être musicien parfois, Yann Altermat?
Complètement. Pas seulement pour le jazz, pour le classique aussi. Je trouve qu'il faut être fou. Il faut être un peu allumé, je trouve. Sinon, c'est fade.
Justement, la période de jeunesse où tu travailles dans un magasin de musique et où tu joues dans plusieurs groupes, il y a des moments de folie parce que le soir, on est musicien et la journée, on va gagner sa croûte, quoi.
Exactement, c'était une période de folie parce que j'étais étudiant, musicien professionnel et l'enseignement, ça allait, il n'y en avait pas trop. Mais ça faisait des week-ends, des marathons avec 3 concerts le week-end et 6 heures de sommeil au milieu. Donc c'était très, très éprouvant, à la limite du burn-out. Hein. Vraiment, c'était vraiment violent. J'avais presque des troubles de l'équilibre tellement que je forçais. Non, j'avais des trucs. Mais il faut être un peu fou. En fait, il faut vu que c'est un milieu très difficile, même on peut dire à tout point de vue, hein, parce qu'on dit toujours il y a l'enseignement, mais même dans l'enseignement, il faut se bagarrer pour avoir sa place.
Pour la garder.
Pour la garder et tout ça. Donc, et si on ne parle pas d'enseignement, si on parle vraiment de musique, là, uniquement de musique, si on parle de concerts et de sessions studio, c'est un combat tous les jours, quoi. Il faut se battre, quoi. C'est gagné pour personne, quoi. Donc si on n'a pas cette vocation, voilà, si on n'aime pas attendre un train une demi-heure ou patienter 2 heures dans un backstage parce qu'on aimerait être à la maison, ça va pas avec la musique, quoi. C'est un truc de foi, quoi. C'est une religion presque.
Par ici la musique.
Il y a cette image quand même exceptionnelle, toujours le saxophoniste, hein, ce prolongement et puis ce S du saxophone. Il y a des images absolument magnifiques, des photos en concert, que ce soit de grands jazzman, mais encore aujourd'hui, c'est toujours magique. C'est un instrument qui visuellement est magique aussi.
Ouais, complètement, ouais. C'est le côté doré, bon, il y a aussi des saxophones argentés. Oui. C'est cet aspect doré qui a un côté sympathique en fait dans la forme, ouais. C'est exactement ça, ouais. Bon, le trombone à coulisses, ça pourrait paraître rigolo par exemple, mais c'est vrai que il y a aussi un côté très jazz. On voit le saxophone, ça évoque le jazz. On se souvient aussi du film Subway avec où il joue du sax dans la bouche de métro, ça résonne. Donc il y a tout un imaginaire collectif avec avec le saxophone. Quoi.
Il y a une image jazz, mais il y a aussi une image sensuelle autour du saxophone.
Oui, complètement, ouais, complètement.
On revient à ce son qui vibre, hein, et qui fait vibrer les tripes en même
voilà,
temps.
Voilà, exactement. Alors après, c'est souvent le sax ténor, hein, qui possède en réalité
cette image
est en fait le résultat après. C'est parce que si, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais si on fait du sax alto, on est dans des fréquences qui sont moins en... Voilà, c'est moins ça, quoi. Les gens d'ailleurs aiment rarement... Le saxophone était mal aimé, le saxophone alto.
Ah oui.
Mais je me suis mis... Maintenant, je fais les deux, alto et ténor. C'est pas parce que... J'adore le ténor, donc... Voilà, je fais les deux.
Les instruments, il y a des instruments de rêve. Est-ce qu'il y a un saxophone qui te fait rêver parce que c'est un saxophone particulier, parce qu'il a appartenu à un musicien ou parce que c'est une marque qui serait le Stradivarius du saxophone?
Alors, il y a à ce sujet, moi je ne suis pas du tout alors, dans le truc que ça a appartenu. Bon, si on me dit que c'est le sax de Charlie Parker, ça va me faire un petit effet. Hein. Mais en fait, c'est plutôt des modèles prestigieux qui ont existé et qui existent encore. Comme mon alto, il y a le Mark VI qui est... Mon alto, j'ai une valeur affective énorme, je l'ai depuis l'âge de 22 ans. Et puis, c'est une bonne année, c'est comme le vin. Donc, il est de 1954. Un alto de 1954, Mark VI chez Selmer, c'est quelque chose d'incroyable.
Donc, il y a des millésimes donc dans ces instruments.
Il y a des millésimes, voilà.
Ah ouais, ça je l'apprends, oui.
Il y a des millésimes, ouais, moi c'est... Ouh là, 74280, ouh là là, ça c'est...
Ah ouais ?
Les vendeurs, ouais, ça fait partie d'une bonne année. Après, il y a des... Ce qui se passe, en fait, pour expliquer la chose, c'est qu'un saxophone, ça c'est ma... On peut contredire hein, ce que je dis, mais il y a personne pour me contredire. Donc, ça se passe de la manière suivante, en fait, c'est que... Maintenant, ils sont exceptionnels, les saxophones Selmer. Il n'y a pas photo, quoi. Mais ce qui se passait à l'époque, c'est qu'en fait, les alliages... était différent et ce qui se passait à l'époque c'est que c'était plus fait main, donc en fait il y avait plus de différence d'un à l'autre. Maintenant c'est testé en soufflerie, parfait, ça reste aussi du travail à la main, mais il y a une espèce de savoir-faire, une stabilité actuelle qui était certainement moins là à l'époque. On pouvait tomber sur un mauvais lascar, donc fallait bien choisir. Chaque saxophone avait sa personnalité en fait, parce qu'il était conçu vraiment à la main, donc c'était moins uniformisé. Et ça, quand je joue des vieux sax, je me rends très bien compte que c'est quelqu'un, en fait. Parce que maintenant, on peut, d'un à l'autre, on peut dire ça va, ça va, ça... Donc ça vient de l'alliage et puis de tout le travail fait main.
Wembley, c'est un des groupes importants pour Yann Altermat.
Oui, c'est très important parce que ça m'a permis de moi être un suiveur en fait. Ça correspond à une époque de ma vie où je me suis mis à organiser des jams au Café du Cerf à Neuchâtel. pendant 2 ans, toutes les 2 semaines, j'invitais des gens différents. Il y a eu Luigi Galati, il y a eu Julien Revillou, Lucien Dubuis, Samuel Blazer et plein d'autres. Hein. Aussi Alain Tissot qui est venu. Donc ça correspond à cette période où en même temps j'étais leader de Wembley. Et ça m'a permis en fait de moins être un suiveur et d'être plus...
Un meneur,
voilà. Ouais. D'avoir du leadership, de prendre des décisions tant au niveau du graphisme que du studio à choisir, que l'ingénieur du son, que des choix des morceaux à mettre sur le disque. De prendre position quoi, et de composer et s'affirmer en fait. Ça m'a permis de m'affirmer. Mais ce groupe n'existe pour le moment plus. Voilà, il est en stand-by.
Mais justement, tu as dit le mot composer parce qu'il y a pas mal de compositions de Yann Altermat dans Wembley et ça permet justement de signer du coup des partitions. Et ça aussi, finalement, c'est quand même grisant, c'est exceptionnel pour un musicien.
Ah oui, oui, il y a plusieurs plaisirs. Hein. Il y a le plaisir de jouer, mais le plaisir de créer comme un être. Un morceau, c'est comme un être en fait. Ça paraît un peu allumé, comme je dis ça, mais c'est vraiment c'est comme un petit bébé. Quoi. Donc quand on est content de son morceau et que c'est bien joué, c'est un autre plaisir encore que d'exécuter en fait. Ça rapporte d'autres plaisirs.
À qui tu penses lorsque tu composes ?
Des fois à rien, des fois, je sais pas, à mes enfants ou ça dépend des fois quoi.
Ils ont quel âge tes enfants ?
2 ans.
Pas encore musicien ?
Elles chantent déjà un petit peu. Ouais, elles chantent déjà Dodo l'enfant d'eau un petit peu.
D'accord.
Ouais.
Une enfant qui chante, ça peut inspirer un compositeur, un musicien.
Ah ouais, complètement. Ouais. Tu sais, je les mets, ils font du piano aussi, n'importe comment, je les mets des jeux sur le piano depuis. Des fois ça fait des mélodies un peu, mais c'est le hasard.
Comment est-ce que les enfants de 2 ans sont-ils sensibles au son du saxophone ?
Énormément en fait, énormément. Ça les fait rire, des fois ça les... Bah, ils dansent en fait, comme s'ils étaient en discothèque quoi. Ils sont les deux à danser comme en boîte.
On va terminer avec un petit extrait d'une musique qui fait partie d'un projet qui est en train de se mettre sur pied actuellement. On est dans la musique... Un peu d'ambiance, t'aimes bien aussi créer des ambiances, créer des décors avec la musique.
Ouais, j'aime bien le côté cinématographique, exactement. Quoi. Voilà, donc ça c'est un nouveau projet qui s'appelle Cruising Marvin. C'est un petit clin d'œil au film Retour vers le futur.
Un film qui t'a marqué.
Oui, oui, c'était marquant en tant qu'ado, quoi. Plein d'amis, ouais, c'est... Ouais. Et ce groupe, ben, il est très influencé par la soul music et tout ça, la folk américaine.
La musique t'a beaucoup apporté, t'a fait faire pas mal de rencontres évidemment aussi. Est-ce que tu pouvais imaginer un jour que la musique puisse t'amener autant de magie ?
Ça, j'aurais pu imaginer, mais par contre, qu'elle me fasse apprendre sur moi-même, ça peut-être moins, parce que je n'ai pas toujours appris qu'en musique, j'ai aussi appris à comprendre le monde à travers l'apprentissage de la musique et le fait de faire de la musique, en fait. On apprend autant quand on organise un groupe à gérer le facteur humain. On apprend à être intuitif, ça fait travailler le cerveau, les deux parties du cerveau si on veut. C'est un jardin qu'on cultive, et puis même pour quelqu'un qui fait ça en amateur ou en professionnel, c'est égal. Déjà il y a la notion d'effort, parce que pour arriver il faut travailler. C'est pas un truc qu'on mâche tout près comme un film hollywoodien, qu'on regarde, on prend un popcorn. Donc, puis après on a un retour, donc ça, humainement ça se fait collectivement, donc ça rapporte humainement et ça rapporte aussi dans l'épanouissement d'une personne, enfin pour moi ça a été, ça m'a structuré en fait. Il y a un côté thérapeutique aussi. Hein. Après un concert, on a perdu 2 litres d'eau, puis qu'on a envoyé la sauce, ça, on se sent un peu comme si on avait fait une séance de yoga. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de positifs, quoi. Énormément de positifs.